Vous écoutez RTL.
RTL dimanche soir, le MacPol
avec Philippe Robuchon.
Le MacPol, le magazine politique de la rédaction de RTL avec Olivier Mazerolle. Bonsoir.
Bonsoir.
Combien de temps cela va-t-il durer? Combien de samedis faudra-t-il encore pour que les Champs-Élysées ne soient plus le terrain de jeu préféré des Black Blocs? Nous n'y sommes pas, a reconnu Emmanuel Macron en parlant de la stratégie policière. Il faut des décisions fortes pour que cela n'arrive plus. Décisions fortes, oui, mais lesquelles? Réponse uniquement policière, judiciaire, politique, état d'urgence. Vous nous direz dans un instant, Olivier, ce que vous en pensez. Et on va réécouter Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, qui a donné son avis aujourd'hui au grand jury. En attendant, le grand débat lancé le 15 janvier touche à sa fin. Les premières conférences citoyennes ont eu lieu cette semaine. Si l'on en croit le reportage qui va suivre de Christian Panvert, qui a assisté pour RTL à celle d'Orléans, pas sûr qu'elles soient vraiment de nature, ces conférences, à mettre fin à la crise. Enfin, à 10 semaines des élections européennes, on va s'arrêter sur un gros coup de mou, celui que traverse la France insoumise, distancée dans les sondages. A-t-il déjà fait une croix sur le scrutin du 26 mai? Réponse avec un reportage tourné cette semaine lors d'un meeting à Caen. Le MacPol, c'est parti jusqu'à 19h.
Le MacPol,
la semaine d'Olivier Mazerolle sur RTL.
Olivier, les Champs-Élysées dévastés, 80 magasins saccagés, colère des commerçants, incrédulité d'un grand nombre de Français. Il faut des décisions fortes, dit Emmanuel Macron. Clairement, hier, on a franchi une étape.
Ah, c'est certain. Les saccages d'hier n'ont aucune justification, sauf pour ceux qui rêvent du chaos et de l'affrontement. Il faut en finir avec le refrain compassionnel sur les pauvres gilets jaunes pacifiques qui seraient victimes des casseurs. Ceux qui sont restés pendant des heures sur les Champs-Élysées à se féliciter des rapines, des incendies et des attaques contre les policiers qui y ont parfois participé sont évidemment les complices de ces bandits. Ils dénaturent l'esprit de leur mouvement. Tout était organisé pour la violence. Une foule était rassemblée à l'appel de textes vindicatifs publiés sur Internet, livrés à l'ivresse des opérations commando. Pas un gilet jaune de notoriété n'a condamné cela. J'ai même entendu ce matin une gilet jaune expliquer que si elle condamnait les actes, elle refusait de condamner ceux qui les avaient commis. À l'entendre, les lanceurs de pavés, les pilleurs et les incendiaires ne seraient pas responsables. Ça suffit.
Emmanuel Macron a annoncé des mesures fortes. Édouard Philippe est d'ailleurs réuni en ce moment avec le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État. Il pourrait interdire les manifestations?
Franchement, ça serait une défaite démocratique, un état d'urgence sans le dire. Les manifestations pacifiques sont possibles. La preuve en a été apportée hier avec la marche sur le climat. Il pourrait prendre des mesures ponctuelles pour empêcher les agitateurs répertoriés de se rendre sur les lieux des manifestations. Mais là encore, il faut en finir avec l'hypocrisie de ceux qui déplore la casse, mais s'insurge quand le gouvernement veut imposer des mesures d'interdiction individuelle de manifester. Ce sont pourtant les individus qui cassent qui mettent le droit de manifester en danger. Et même chose pour les LBD. Leur utilisation pose certainement problème, mais on a vu hier ce qu'il se passe lorsque les policiers ne les utilisent plus ou peu. Les casseurs ont au moins réussi à démontrer le caractère indispensable des LBD.
Est-ce que la journée d'hier, Olivier, condamne la possibilité d'une issue positive au grand débat?
Espérons que non, mais pour réussir, Emmanuel Macron a pour tâche d'apaiser le pays, de tout faire pour empêcher les affrontements entre une France qui pratique ou tolère la violence et l'autre France qui ne la supporte plus. Pour cela, il ne peut pas miser seulement sur les mesures d'autorité, il devra répondre aux attentes multiples, y compris des plus déshérités. Il n'y parviendra qu'en prouvant être en phase avec la société et à cet égard, son départ au ski, alors qu'il savait les menaces qui pesaient sur la journée de samedi, n'est pas le meilleur des augures. Décidément, chasser le naturel, il revient au galop.
Olivier Mazerolle, en marge des violences d'hier, le grand débat, donc lancé le 15 janvier par Emmanuel Macron, est entré cette semaine dans sa deuxième phase. Après 10 000 réunions publiques dans les mairies, les gymnases, après la rédaction de 16 000 cahiers citoyens, ce débat a donc fait place aux premières conférences régionales citoyennes. 7 ont déjà eu lieu, 7 autres auront lieu vendredi et samedi prochain, plus une sur la jeunesse, avec des citoyens tirés au sort qui ont donc commencé à faire le tri, à fixer des priorités face à la quantité phénoménale de revendications parfois contradictoires. RTL a pu assister cette semaine à l'une de ces conférences, celle d'Orléans. 70 citoyens de la région Centre-Val-de-Loire y ont participé. Christian Panvert s'est glissé dans la salle, je vous laisse écouter et on réagit ensuite.
Dans une des salles du centre de conférence d'Orléans, les participants émargent une feuille de présence. Ils sont venus en train, en voiture, des 6 départements de la région. Ils dorment à l'hôtel, mangent sur place. Leurs frais sont pris en charge. Bernard, retraité, 74 ans, épingle son badge sur le revers de sa veste.
Je suis membre du FC Que Choisir. Et j'ai supposé que peut-être il y avait eu un piochage de numéros dans les fichiers de ces associations. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'était tiré au sort au niveau national. Si c'est vrai, j'ai gagné un gros lot de la loterie nationale.
Les 71 participants sont répartis sur une douzaine de tables, 43 femmes, 28 hommes.
Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui à Orléans. Je suis Taline Apriquian, je suis la directrice de cabinet du préfet du Loiret.
4 animateurs soutenus par des volontaires appelés les facilitateurs assurent le bon déroulement de la conférence.
Qui a manifesté de la sympathie pour le mouvement des Gilets jaunes ?
On prend pas de photos. On a juste envie d'avoir une idée quand même. 32 personnes et en tout, donc on est 70 à peu près. Ok.
Dans l'assistance, on compte en majorité des retraités, mais très peu de moins de 30 ans. Durant 3 jours, ils ont planché sur les 4 thèmes du grand débat: transition écologique, fiscalité, organisation de l'État et démocratie. Ils ont pu consulter aussi les travaux du Conseil économique, social et environnemental réalisés par les corps intermédiaires, élus locaux, partenaires sociaux, associations, mais aucune synthèse des grands débats ou des cahiers de doléances. Nadia Belaoui, une des garantes du grand débat, le regrette.
Il aurait été préférable que ces conférences citoyennes arrivent plus tard, qu'elle puisse justement se prononcer sur des premiers résultats, peut-être les hiérarchiser, les approfondir, mais ça n'a pas été possible dans les délais impartis.
Khalid, 39 ans, informaticien, vient de Tours. Il reste un peu sur sa faim, même s'il a pu soumettre une proposition en direction des élus avant qu'ils ne votent les lois.
Il faut d'abord récupérer l'avis des citoyens, c'est-à-dire par une collecte d'informations, soit par les réseaux sociaux, par les mairies, par les stands dans les gares, pour qu'ils puissent avoir notre avis avant d'agir.
Hier soir, 16 propositions ont été retenues, parmi lesquelles réformer profondément le système fiscal pour plus d'équité, dépenser mieux pour vivre mieux, poursuivre la décentralisation, faire de la substitution des énergies fossiles une priorité gouvernementale. Beaucoup de généralités, rien de très concret. Danielle, 76 ans, le reconnaît, mais elle ne regrette pas d'avoir fait le déplacement du Cher.
C'est quand même un fait historique exceptionnel. Donner la parole à autant de personnes, c'est un exercice démocratique qui ne s'était jamais vu en France.
Une synthèse des réflexions sera réalisée dans les jours qui viennent et soumise directement au gouvernement en avril.
Reportage Christian Panvert à Orléans. Olivier,
c'est vrai que ce sont des généralités. Wow. Quand même, il faut dépenser mieux. On n'a pas besoin d'un grand débat pour se persuader de ça, quelles que soient les opinions que l'on a. Mais un chiffre m'a frappé. 71 participants, les garants du grand débat, les 5, espéraient qu'il y ait au moins 100 personnes par conférence. Eh bien, ça montre que les Français tirés au sort ne se sont pas précipités.
Dans un instant sur RTL, Olivier, retour sur le grand jury d'Agnès Buzyn. A tout de suite.
Le Mac Paul,
Philippe Robuchon.
Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, était à la mi-journée l'invitée du grand jury sur RTL. Elle a confirmé qu'elle ne serait pas candidate aux européennes. Sur la réforme des retraites, elle a laissé entendre qu'un allongement de la durée du travail était sur la table. On va y revenir. Elle a également évoqué son projet de loi santé qui arrive à l'Assemblée demain. Mais elle a surtout commenté ce qui s'est passé hier sur les Champs-Élysées. Après 18 samedis de colère, Emmanuel Macron qui demande des décisions fortes. D'où cette question posée à Agnès Buzyn au grand jury. Pourquoi avoir attendu 18 semaines ? On l'écoute, on débriefe après.
Alors d'abord, on n'a pas attendu puisque nous avons fait une loi anti-casseurs, qui d'ailleurs, je le rappelle, la semaine dernière était fortement critiquée comme liberticide. Elle est devant le Conseil constitutionnel et aujourd'hui, cette loi permettrait, si elle était adoptée, de répondre déjà à ces casseurs qui débarquent dans Paris en permettant de les arrêter de façon préventive, ce qui n'est pas possible de faire aujourd'hui. Donc nous n'avons pas attendu, mais je rappelle aussi que les manifestations des Gilets jaunes ces dernières semaines étaient en train de se calmer. Il y a eu une manifestation la semaine dernière à Paris qui s'est passée dans le calme, sans aucune exaction. Donc ce regain de violence a été, on l'a vu, cherché par certains Gilets jaunes leaders sur Internet.
Il avait été annoncé.
Les mesures policières qui avaient été prises étaient d'un tout autre ordre que celles de la semaine dernière. Mais il y avait, je le rappelle, en parallèle, une manifestation tout à fait pacifique sur le climat. Et puis, la police avait renforcé la protection aux abords des Champs-Élysées.
Pourquoi interdire les manifestations, par exemple, à titre provisoire ?
Est-ce qu'on peut encore appeler ce qu'on a vu hier des manifestations? C'est ça la question, parce qu'en réalité, moi je ne souhaite pas interdire les manifestations, mais une manifestation, d'abord, elle doit avoir un mot d'ordre, elle doit avoir des revendications. Vous voyez qu'il n'y avait aucune revendication, aucun panneau, aucune demande particulière. La question est de savoir jusqu'à quand peut-on appeler ça une manifestation. Hier, c'était des pillards. Les personnes qui avaient un gilet jaune sur le dos, elles prenaient du plaisir à voir les saccages, elles avaient l'air très heureuses. Moi, je pense que quand on est témoin d'un crime, on le dénonce et on s'en éloigne. Je pense que ce sont au minimum un cheval de Troie, parce que ça permet, ça met en place les conditions pour que des casseurs puissent agir en toute impunité. Donc voilà, moi je considère que les personnes qui étaient devant le Fouquet, ça se prend en selfie hier, sont des complices de ce que nous avons vu.
Christophe Jacubizine.
Benjamin l'a évoqué tout à l'heure, le président est rentré précipitamment d'un week-end au ski. La semaine dernière, Christophe Castaner s'est détordu dans une boîte de nuit. Est-ce que ce sont des attitudes qui sont opportunes dans le contexte que l'on vit?
Écoutez, la semaine dernière, je le rappelle, il y a eu des manifestations. Elles s'étaient toutes déroulées dans le calme. Le ministre de l'Intérieur a été à 11h du soir à un anniversaire. Je pense que ça fait partie de sa vie privée. Je ne crois pas que ça ait nui à l'exercice de son ministère. Je pense que c'est pareil pour les manifestations d'hier. A posteriori, c'est très facile de dire que ça a atteint un niveau de violence absolument extrême et que les images de voir le président de la République en week-end peuvent être choquantes. Le président de la République a pris les décisions qui s'imposent, qui étaient de rentrer de son week-end. Il a tenu une cellule de crise hier soir avec le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre. Et donc, il est parfaitement au travail. Et je pense qu'il nous demande, nous, gouvernement, en tous les cas au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur, de prendre les mesures nécessaires.
D'autant qu'à l'issue de cette cellule de crise, il a déclaré « Nous n'y sommes pas ». C'est une forme de désaveu du ministre de l'Intérieur.
En tous les cas, je pense qu'il était effectivement insatisfait, c'est le moins qu'on puisse dire, du fait que les choses avaient été insuffisamment contrôlées alors que les moyens avaient été mis. Ça peut être aussi... la méthode que nous utilisons, qui n'est peut-être pas adaptée à des bandes aussi organisées, qui font que c'est extrêmement difficile à bloquer.
Le Macpol, Philippe Robuchon.
Benjamin Sportouche, RTL, Guillaume Roquette, Le Figaro, Christophe Jacubizine, TF1, LCI. Messieurs, c'est vous qui avez animé ce grand jury d'Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Alors, elle intervenait évidemment au lendemain de cet épisode de ce saccage des Champs-Élysées. Pas facile dans ces conditions-là de défendre l'action du gouvernement, très critiquée. Comment s'en est-elle sortie?
Elle a fait preuve de sincérité, c'est-à-dire qu'elle a quand même dit que le président était sans doute insatisfait, je crois que c'est son mot, de l'action de la police et donc du ministre de l'Intérieur. Voilà, donc on a bien compris que des nouvelles mesures allaient être annoncées. Alors, le gouvernement, il est quand même un peu contradictoire sur ces sujets-là, parce que d'un côté, il y a la loi anti-casseurs sur lequel il y a une saisine du président au Conseil constitutionnel, donc ça veut dire qu'il a peut-être des doutes sur la légalité de la loi. De l'autre, on va avoir des mesures, encore de nouvelles mesures d'urgence pour éviter que les week-ends suivants se ressemblent à celui-ci. Donc, franchement, c'est quand même un point de faiblesse très fort pour le gouvernement, et Agnès Buzyn, là-dessus, n'a pu que le constater, il me semble.
Guillaume Roquette,
elle est politique, elle est quand même très prudente, hein, parce que plusieurs fois on lui a dit, mais alors, est-ce qu'il y a eu faute, est-ce qu'il y a eu erreur? À mon avis, d'ailleurs, elle aurait dû dire, bah oui, de toute évidence, ça s'est pas bien passé, parce que c'est ce que tous les Français disent. Parce qu'il suffit d'avoir la télévision. Oui, elle a dit que le président était insatisfait, mais elle a pas dit, nous, gouvernement, bah, nous n'avons pas pris les mesures nécessaires, il n'y a qu'à voir le résultat et d'aller sur les Champs-Élysées ce matin pour s'en rendre compte. Donc, on a découvert, en tout cas moi, une vraie politique, parce que c'est une femme qui est assez à l'aise, y compris quand elle sort de ses domaines de compétences. Et comme c'est une vraie politique, elle est aussi extrêmement prudente.
Benjamin ?
Elle est prudente et en même temps, elle nous a, encore une fois, elle dit le président est insatisfait, ce qui veut dire beaucoup quand même, oui. dans la voix d'une ministre. Alors, elle ne dit pas que Christophe Castaner a été désavoué, mais on sent bien qu'à la tête de l'État, eh bien, ça patauge. Et si le président de la République a interrompu son week-end au ski, qu'elle a défendu tant bien que mal en disant que, bon, c'est sa vie privée, qu'il est remonté immédiatement, elle n'en a pas fait non plus des caisses sur le droit à la liberté du président de prendre des vacances. Elle est restée quand même très prudente et on sent bien que si le président avait pu échapper à ce contraste, ça aurait été quand même plus profitable pour le gouvernement et pour lui-même.
Vous dites qu'elle a été prudente, mais il y a quelque chose qui m'a frappé quand même. Elle n'a pas pris de gants quand il s'est agi de dénoncer les gilets jaunes complices. En prenant des selfies et tout ça. Elle y va franco.
Ah là. Oui, il va franco. Mais bon, en même temps, c'est la ligne du président. Ça fait quand même 15 jours que le président dit que ceux qui vont aux manifestations maintenant sont complices. Et effectivement, elle a dit très clairement que ceux qui s'étaient pris en photo devant le Fouquet's incendié, les gilets jaunes, pas les casseurs, étaient forcément complices de ce qui s'était passé. Et donc là, effectivement, elle n'a pas pris de gants.
L'État, l'exécutif sait au final que cela va participer à retourner l'opinion publique un peu plus, parce que le soutien est moindre, contre les Gilets jaunes. Donc on voit bien aussi l'exploitation politique qui peut en être fait.
Alors, sur un tout autre sujet, on n'a pas entendu l'extrait à l'instant là, mais c'est le recul éventuel de l'âge du départ à la retraite. Ah, oui. Alors là, on a quand même senti, comment vous avez trouvé...
Moi, écoutez, j'étais très surpris. Je pensais qu'elle allait nous faire la promotion de la retraite à points, de cette réforme qui allait, comme d'habitude, être préparée dans la concertation avec Jean-Paul Delevoye à la manœuvre. Enfin, vous voyez, tout le tintouin habituel.
Ce qu'on entend habituellement.
Là, elle fait un pas de plus. Oui, à titre personnel, elle est favorable au report à 65 ans, ce que Xavier Bertrand a proposé sur notre antenne cette semaine. Et donc, j'ai trouvé ça honnête, très honnête. Elle l'a argumenté. Et en même temps, c'est un pavé dans la mare. Et je ne suis pas certain que, en haut lieu, on ait été informé de ce pas de côté.
Là où c'est intelligent, c'est qu'elle le fait comme médecin.
Oui.
Elle dit, j'observe que la durée de vie est de plus en plus longue. J'avais face à moi des gens qui avaient 70 ans et qui pétaient le feu. Et donc, il est normal de le faire. Je trouve que d'une manière générale, elle utilise très bien cette double compétence de ministre et de médecin. Par exemple, quand elle dit, la médecine ambulatoire, c'est un progrès, donc il n'y a pas de raison de vouloir toujours plus de lits dans les hôpitaux. Là, elle est vraiment, elle a compris combien les Français voulaient des ministres experts.
Christophe. Moi, j'étais moins surpris que Benjamin parce que, au fond, cette réforme des retraites, elle va être plus compliquée que prévu à cause du contexte social et elle sera sans doute moins radicale que prévu. D'ailleurs, on a entendu ce qu'elle a dit sur les régimes spéciaux, elle avait reçu les rapports, elle allait discuter. Donc, je pense que si elle est moins radicale que prévu, notamment sur l'alignement des régimes de retraite, elle rapportera moins d'argent que prévu et qu'il faudra donc trouver d'autres mécanismes pour équilibrer les comptes et que l'autre mécanisme le plus évident, c'est d'augmenter de l'âge de la retraite. Et je pense qu'elle sait très bien, Agnès Buzyn, que comme elle pourra faire moins, une réforme moins radicale, la réforme à points, etc., elle va être obligée d'appuyer sur le levier de l'âge de la retraite. Ouais. Et je pense qu'elle n'est pas le seul gouvernement à le savoir.
Est-ce qu'elle n'a pas fait de la politique, là, justement, en un mot? Parce que, oui, elle n'est plus tête de liste aux européennes. Mais peut-être a-t-elle voulu nous dire aussi, écoutez, je ne suis pas tête de liste aux européennes, mais je suis ministre de la Santé et des Solidarités et j'ai des propositions à faire. Et si je n'ai pas un autre combat à mener, je vais peut-être mener celui-là. Donc se faire entendre et asseoir sa position.
Voilà, elle se fait entendre. Elle est une ministre politique, contrairement à ce qu'on peut dire.
De plus en plus.
Merci Benjamin Sportouchertel. Merci Christophe Jacubizine. TF1 LCI, Guillaume Roquette, Le Figaro.
RTL dimanche soir, le MacPol,
Philippe Robuchon.
Intéressant ces propos d'Agnès Buzyn sur les retraites.
Oui, absolument, elle n'a pas froid aux yeux, mais en même temps c'est le bon sens, parce que c'est la seule manière de ne pas dépenser plus pour les retraites et de pouvoir faire des économies sans que ça coûte quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est pas mal, non?
Alors, à 10 semaines des élections européennes, Olivier, deux partis continuent de faire la course en tête, La République En Marche et le Rassemblement National, autour de 20%. En troisième position, les Républicains reprennent un peu de couleur, autour de 13-14. Les autres formations arrivent loin derrière, notamment la France Insoumise qui plafonne autour de 7-8-9%. En fait, le mouvement ne semble s'être jamais relevé des effets dévastateurs de la colère de son chef lors des perquisitions d'octobre. À tel point que la question se pose aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon est-il encore un moteur ou est-il devenu un frein pour son propre mouvement? Marie-Bénédicte Allaire est allée le vérifier cette semaine lors d'un meeting à Caen, en Normandie.
Je demande à Jean-Luc qui vient nous parler au moins 15 minutes. J'ai fait 2 heures de route pour ça.
C'était jeudi soir, premier meeting de la campagne des européennes avec Jean-Luc Mélenchon à Caen. 500 personnes sont dans la salle, près de 200 autres doivent rester dehors faute de place.
Voilà.
La France Insoumise a visiblement mobilisé en faisant venir des cars. Jean-Luc Mélenchon peut être soulagé, il fait toujours recette. Du coup, il se paie le luxe de reprendre à son compte les critiques qu'on lui fait depuis quelques mois. Le mouvement s'essouffle, les sondages ne sont pas bons. Personne n'aime ma personne sacrée, allusion à sa célèbre phrase et à son explosion de colère lors des perquisitions d'octobre. Sur le plan politique, l'épisode a bel et bien terni son aura. Jean-Luc Mélenchon a fini par le reconnaître.
Ah, Mélenchon, il me fatigue. Bah oui, mais très bien, c'est pas pour Mélenchon que tu votes, c'est pour Manon Aubry. Donc déjà, ça devrait te soulager, hein? Bon, et d'une.
Au meeting de Caen, jeudi soir, il n'y a pas que des groupies de Mélenchon. Joël, qui adhère au programme de la France Insoumise plus qu'à son chef, se réjouit que la liste soit emmenée par Manon Aubry, venue d'une ONG.
Monsieur Mélenchon, c'est vrai qu'il a plein de choses à régler avec tout le monde et tout ça. Je suis contente que la jeunesse, enfin, avec Manon Aubry, soit là, en tête de liste. Voilà.
Mais chez des militants plus engagés, comme Éric, maire d'une commune rurale, malgré ses défauts, Jean-Luc Mélenchon reste incontournable.
Oui, c'est un personnage qui a du caractère, c'est un personnage qui
qui quelquefois on peut ne pas aimer, mais il n'empêche que c'est le seul actuellement, c'est le seul capable de porter cette voix et de porter ses idées.
Et pourtant, au fil des mois, la France insoumise a perdu son statut de premier opposant au président. Elle paraît bien loin cette fin d'été où Jean-Luc Mélenchon plaçait très haut les ambitions de son mouvement pour les européennes.
Nous allons faire de cette élection un référendum anti-Macron. Nous allons inviter les Français à lui mettre une raclée.
Mais aujourd'hui, à en croire les sondages, le principal concurrent de Jean-Luc Mélenchon n'est plus Emmanuel Macron, mais l'écologiste Yannick Jadot. Et c'est contre lui que le patron des députés insoumis décoche ses flèches en l'accusant de vouloir pactiser avec les libéraux en Europe.
Moi, je me fais donner la leçon à intervalles réguliers par Monsieur Jadot. Mais quand même, il a voté tous les textes sur l'OTAN, tous sans exception. Et il pense que c'est une bonne chose que de faire comme ça. Eh ben, pas moi.
À demi-mot, chez les responsables insoumis, on reconnaît maintenant que les européennes ne seront sans doute pas le succès escompté. Et on s'apprête à les enjamber en prétextant que la mère de toutes les batailles, c'est la présidentielle. Mais Jean-Luc Mélenchon sera-t-il toujours en situation en 2022? L'inclassable François Ruffin se sent désormais lui aussi de taille à se mesurer au président, avec, semble-t-il, la bénédiction de son aîné. Figaro, le député de la Somme, confiait il y a quelques jours « Mélenchon m'encourage à ne pas fermer la porte de la présidentielle ».
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Commentaire, Olivier ?
Oui, je vous rappellerai que Jean-Luc Mélenchon avait célébré l'avènement de l'année 2019, le 1er janvier, en disant sa fascination à l'égard d'Éric Drouet. Eh bien, c'était peut-être pas la meilleure façon de convaincre une majorité de Français.
Merci Olivier pour ce MacPoll qui s'arrête là ce soir à 18h58. Dans un instant, les titres de 19h. Juste après les dessous de l'écran, l'émission média de RTL, on va recevoir des lycéennes et des enseignants de Colombes qui participent à partir de demain à la semaine de la presse à l'école avec RTL et M6. Et puis dans Autoradio avec Christophe Bourreau, on va essayer de comprendre pourquoi le nombre d'accidents dus à l'alcool ne baisse pas malgré toutes les campagnes qui se succèdent depuis maintenant 40 ans. A tout de suite.
Le MacPoll,
RTL dimanche soir.